Ça a été pour moi une expérience, quand j'étais tout jeune prêtre, encore prêtre étudiant. Je rendais service dans une paroisse de banlieue, pas très loin de Paris, et on prépare les enfants à une première confession. Et le premier que je reçois ne dit rien. Alors j'essaie de l'encourager. Qu'est-ce que tu voudrais dire à Jésus dans ce sacrement? Et il lève vers moi des grands yeux, interrogatifs et douloureux, en disant que mon papa revienne. Parce qu'un enfant naît d'un homme et d'une femme. Et donc son identité est liée à cet homme et à cette femme qui se sont unis et qui ont fait naître cet enfant. Et donc, ce n'est pas seulement les conséquences pratiques et difficiles du divorce que l'enfant vit, et pas seulement quand il est enfant, vraiment, quand je parle des enfants, je pense même à des jeunes adultes que je connais. Eh bien, le divorce des parents est une vraie crise existentielle pour l'enfant, parce que c'est en quelque sorte le berceau de son identité, de son être, qui se brise. Alors, là aussi, il faut être présent. Il faut surtout, pour les plus jeunes, il faut surtout les aider à ne pas se faire les coupables. Les psychologues constatent souvent que l'enfant se dit « qu'est-ce que j'ai fait? Ça va être de ma faute si papa et maman ne s'aiment plus ». Donc ça appelle du côté des parents aussi une grande vigilance pour que lorsqu'il s'agit des fêtes familiales, des anniversaires, des grandes étapes de la vie chrétienne des enfants, leur communion, etc., moi il me semble vraiment impératif que le couple parental, même s'il est séparé, brisé, se reconstitue. Les enfants ont droit à leur père et à leur mère ensemble dans ces grands moments. Mais parfois c'est au contraire des lieux de vrais pugilats, des lieux de chantage et on essaie de mettre l'enfant dans son camp contre l'autre et ça c'est dramatique.
Et quel est l'impact du nombre grandissant de divorces sur la société, sur l'équilibre de la société?
Je crois qu'on ne mesure pas assez les dégâts du divorce et de la fragilité du mariage aujourd'hui. Qu'il y ait des échecs, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais nos sociétés, à mon avis, les encouragent plutôt qu'elles ne les freinent. En tout cas, ce serait à mesurer donc les conséquences destructrices. Parce que beaucoup de politiques, encore aujourd'hui, nous diront « mais la famille, c'est la cellule de base de la société ». Je ne suis pas sûr qu'on en tire les conséquences. C'est-à-dire que si la cellule de base est fragilisée, si souvent mise à l'épreuve, parfois profondément ruinée, et que les lois parfois encouragent cela, mais ça a nécessairement un impact sur toute la cohésion de la société. Et un autre point qui est évident, c'est que la capacité de vivre ensemble se façonne dans les premières années, dans la vie familiale. C'est là que se fait l'apprentissage de la vie sociale. Donc si beaucoup de jeunes aujourd'hui sont des asociaux, il faut voir que beaucoup, c'est souvent lié à un déficit, une présence maternelle et paternelle dans leur existence. Parce que ça crée une sorte d'instabilité psychique et sociale un peu générale.
Vous parlez du fait que la société d'aujourd'hui encourage le divorce. Qu'est-ce qui, dans la société, pousse les gens à divorcer ou qu'est-ce qui, au contraire, les empêche de rester un couple uni?
On sait bien qu'il y a une remise en cause assez générale de ce qu'on appellera la morale traditionnelle, les institutions traditionnelles, et qu'en fait, c'est présenté parfois comme un progrès. Il y a aussi un discours très trompeur où on essaie de se persuader que le divorce, ça se passe très bien, que mon ex est resté un ami, que les enfants ont vécu ça très bien. Ils ont maintenant 8 grands-pères et grands-mères au lieu de 4. Donc c'est un progrès, pardonnez-moi d'ironiser un petit peu, quoi, mais c'est une sorte d'ambiance générale, sans compter alors ce que les plus jeunes voient et entendent à longueur de temps, à la télévision, dans des télé-réalités. C'est une sorte de prime donnée à une érotisation individualiste, narcissique, et qui est très très loin d'une vision de l'amour humain comme le lieu d'une alliance, un projet de vie sur le long terme. Les mœurs actuelles enseignent aux jeunes non pas à se marier et à s'épouser, mais à se séparer. Une vie affective et sexuelle, précoce, ne prépare pas du tout au mariage. Ça prépare au contraire au démariage. Bon, je suis un peu pessimiste, je reconnais, mais c'est en même temps, quand je dis ça, pour moi, c'est en même temps un appel pour que nous, disciples du Christ, nous donnions au contraire ces témoignages d'alliance, d'engagement heureux. Et il ne faut pas se leurrer, c'est un chemin de sainteté, un chemin de perfection, c'est toujours un chemin qui n'est pas héroïque, mais en tout cas coûteux certains jours. Mais je crois que le monde d'aujourd'hui a besoin de notre fidélité aux uns et aux autres, aussi bien les époux que les consacrés, que les prêtres. Notre fidélité est un don que nous avons à vivre et que nous avons à manifester humblement dans un monde qui ne sait plus ce que c'est que la fidélité. Au fond, la véritable déclaration d'amour, ce n'est pas « je t'aime », c'est « je t'aimerai ». C'est quand tu commences à donner de l'avenir à un amour et, ou à un engagement, quel qu'il soit, c'est à ce moment-là que je prends vraiment ma dimension d'humanité.
Le divorce n'épargne pas non plus les familles chrétiennes. Quelle espérance pour des chrétiens séparés ou divorcés?
Nous constatons en effet quelque chose d'assez troublant et douloureux, c'est qu'aujourd'hui, le divorce touche autant les familles chrétiennes, les foyers chrétiens, que les foyers qui ne sont pas chrétiens. Alors cela dit, quand il y a un échec, quand il y a une rupture, quand il y a une impossibilité parfois de prolonger une vie commune qui devient intenable, invivable, là on n'est pas là pour juger les gens, on est plutôt là pour les entourer d'autant plus de présence, de soutien. Augustin, de Trierne, car ce sont des frères et des sœurs dans la communauté. Et les frères souffrants doivent avoir une place privilégiée. Et nous, nous devons aussi avoir cette sagesse et en même temps cette imagination de la charité pour que chacun dans l'Église, tel qu'il est, quel que soit son parcours, quelles que soient ses blessures, puisse vivre du don de Dieu et communiquer à ses frères quelque chose de ce don de Dieu.
Vous avez recueilli dans un livre des témoignages de personnes séparées ou divorcées qui désirent rester fidèles à leur mariage. Cette démarche vous touche-t-elle particulièrement ?
Oui, j'ai eu l'occasion d'accompagner pendant plusieurs années en France la communion Notre-Dame de l'Alliance. Il y a un mouvement un peu analogue en Italie qui s'appelle Separati Fedeli. Et moi, j'ai été très impressionné par leur souffrance, parce que quand on voit de près, on écoute l'histoire de ces personnes, c'est souvent très douloureux, mais parfois un peu cruel. Et en même temps, j'ai admiré leur foi, j'ai admiré leur joie, parce qu'ils ont découvert que la grâce du mariage n'était pas seulement pour le jour du mariage, mais pour toute la vie. Et ils gardaient finalement cette ouverture du cœur, même au conjoint qui est parti, qui parfois les a trahis. Ils cheminent sur un chemin de pardon, de réconciliation, de paix. Et ils donnent un témoignage magnifique sur la fidélité.
Quel regard portez-vous sur l'avenir de la famille ?
L'avenir de la famille, c'est l'avenir de l'homme. Quand je pense que le Fils de Dieu lui-même n'a pas voulu tomber du ciel tout fait et a voulu naître d'une femme et a voulu grandir dans un foyer où Joseph est plus qu'un figurant, il est vraiment le père de Jésus aux yeux des hommes, c'est lui qui lui a donné son nom. Ça nous montre que la famille est vraiment le berceau de l'humanité. Et donc si l'humanité a de l'avenir, la famille a de l'avenir. Je crois que, au moins en Occident en tout cas, nous sommes vraiment au temps du témoignage, c'est-à-dire il faut que nous soyons signes de cette promesse d'amour. L'homme et la femme sont comme les sacrements vivants de la promesse d'amour de Dieu pour l'humanité. Et sont l'image vivante de cette promesse du Christ à son Église. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je crois que là, nous donnons au monde cette vision, même sans discours, cette vision de la vocation de l'homme.